Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les adultes ont cette fâcheuse habitude de demander avec insistance aux enfants puis aux adolescents ce qu'ils veulent faire ou imaginent comme métier quand ils seront grands. Pressés par les fantasmes de réussite des uns ou les projections des autres, rares sont les enfants pourtant qui répondent, consultants en nutrition, professeurs de SVT, vendeurs chez H&M, infirmiers anesthésistes ou encore présentateurs des pieds sur terre. Jusqu'à ce jour de septembre à la fin du XXe siècle où j'ai écrit une petite lettre à la radio, comme ça, en rentrant de vacances, je n'aurais jamais imaginé une seule seconde que je vous parlerais un jour dans ce micro, par exemple. Il est vrai que le système scolaire et le déterminisme social s'appliquent à exclure certains élèves des études supérieures ou d'un champ disciplinaire entier, comme les sciences ou les lettres. Des exclusions prévisibles. Mais de manière positive, précise, il est rare que les jeunes arrivent avec une idée qui corresponde à ce que sera leur future activité. Le hasard, les rencontres font le reste. Hitler était destiné à devenir fonctionnaire, voulait être peintre et a fini dictateur génocidaire. Flaubert a fait des études de droit pour devenir avocat et il est devenu romancier. Jorge Mario Bergoglio travaille dur pour obtenir son diplôme de chimie alimentaire, après quoi il devient le pape François. Combien aussi de futurs pilotes devenus chauffeurs VTC, de rappeuses techniciennes de maintenance ou le contraire, ou de petites filles se rêvant maîtresses d'école qui ont fini ministres. Tout de suite donc dans Les Pieds sur Terre, c'est ça le sujet, ça n'est pas toujours écrit, ou comment naissent les vocations, comment Corinne en particulier en est venue à poursuivre des tueurs en série toute sa vie, à ressortir des cold cases et à s'acharner pendant de longues années à résoudre des cas impossibles alors qu'elle avait étudié les arts décoratifs. C'est tout de suite l'avocate des oubliés.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Dans mon bureau, il y a plusieurs cartes qui sont des cartes qui correspondent à des affaires comme c'est des tueurs en série. Donc j'ai la carte de France parce que j'ai besoin de me resituer en France. Et il y a des zones qui sont marquées, qui sont des zones où il y a eu des disparitions d'enfants, ou des zones où il y a des crimes non résolus qui font une série et on est saisi par une association. Et donc ça me permet, moi, de faire travailler tous les jours... je dirais ma mémoire, de revoir les lieux, de voir comment on peut se déplacer pour aller sur ces lieux. Est-ce qu'il y a une autoroute à côté? Est-ce qu'il y a un massif montagneux? Est-ce que ce sont les correspondances qu'on va trouver sur les crimes ensuite pour trouver les modes opératoires? Donc il y a plusieurs séries. Là il y en a sur mon tableau 2, 4, 6, 7. Il y a 7 séries sur lesquelles je travaille, avec des tableaux d'analyse criminelle et de correspondance avec les photos des victimes, parce que ça nous permet aussi de mémoriser. Quand on a des dossiers où on a 15-20 victimes, vous avez le tableau de Fourniret, quand on voit qu'il y a 15-20 victimes, ça me permet de mémoriser les dates, de mémoriser les noms, de mémoriser leurs visages. C'est un travail qui se fait inconsciemment quand on est au téléphone ou quand on discute avec des journalistes ou des familles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans mon bureau. Et c'est vrai que c'est mieux un bureau d'avocat où il y a des œuvres d'art sur les murs. Je ne demanderais pas mieux, moi qui aime la peinture et la sculpture, mais elle vit en moi, donc je n'ai pas besoin de la voir tous les jours. Mais évidemment, il y en a qui trouvent mon bureau glauque. Je m'appelle Corinne Herman, je suis avocate au cabinet Seban et Associés à Paris. Je suis les affaires criminelles. J'ai un pôle spécifique qui traite uniquement les affaires un peu complexes, un peu compliquées, un peu anciennes, avec ma collaboratrice Marina Alelli et avec Didier Seban, tous les trois. On travaille que pour les victimes, c'est une première spécificité. Deuxième spécificité, on ne fait que trois matières, un peu terrorisme, les disparitions. Disparition probablement d'origine criminelle, mais en tout cas qui ressemble à des disparitions d'origine criminelle, et les crimes de sang qui sont non résolus. Donc c'est vraiment encore un positionnement hyper spécifique, même côté victime. Voilà. Donc, essentiellement, on a des cold cases, puisque les affaires non résolues, c'est par définition des affaires qui sont en souffrance et qui sont en attente de résolution, et donc elles sont souvent anciennes. Pour moi, un cold case, c'est un dossier qui a été abandonné par la justice, c'est-à-dire elle a rendu un non-lieu. Parfois, elle a classé, mais c'est rare en matière de crime de sang, mais elle a rendu un non-lieu en disant, moi, je le range sur une étagère, on verra bien s'il se passe quelque chose. Ça, c'est typiquement un cold case pour moi. C'est-à-dire que la justice s'est désintéressée, alors qu'un dossier qui a 4 ans, la justice, elle travaille encore. Théoriquement, on peut espérer qu'elle travaille encore. Voilà. Donc, c'est très spécifique comme positionnement, et ensuite, autre spécialité entre guillemets, c'est que dans les cold cases, on rencontre beaucoup de tueurs en série en fait, parce que souvent, quand un dossier résiste à l'enquête, ben c'est souvent qu'on a eu en face de nous peut-être un professionnel du crime, et ils deviennent des professionnels du crime. Et donc, du coup, on est un cabinet qui avons croisé le regard et combattu beaucoup de tueurs en série. Alors, il paraît que très jeune, je voulais faire policière ou juge d'instruction. Mais c'est pas comme ça que mes études se sont déroulées, puis c'est pas comme ça que ça s'est présenté. Mais oui, non, j'ai fait les arts déco en même temps que mes études de droit, mais je pensais pas travailler dans la justice. Plutôt l'intention d'aller dans la mode et dans les sociétés, puisque j'ai fait une maîtrise en droit des affaires. J'ai jamais su décider très bien entre les deux, c'est plutôt la vie qui a décidé pour moi. Et c'est vrai que j'étais atypique en droit, et j'étais atypique en dessin aussi, donc voilà. Mais voilà. Mon oncle à l'époque qui avait un cabinet d'avocats avait quelqu'un qui partait, une juriste qui partait, m'a proposé le poste. J'y suis allée vraiment à reculons, mais vraiment à reculons, et je me suis dit, en attendant de trouver autre chose, au moins je connaîtrais un peu les procédures, le métier d'avocat. Mais je me suis dit, bon, en attendant, je gagnerais un peu d'argent. Mon oncle avait deux spécialités reconnues, qui étaient le commercial et le droit des affaires, commercial et pénal. Et donc forcément, si on travaillait pour lui, on touchait ces dossiers-là et on m'affectait des dossiers. Donc ben, je faisais ce qu'on me demandait, et c'est comme ça que je rentre dans les premiers dossiers, et qu'en fait, je vois ma première cour d'assises, que j'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. Et cette première cour d'assises, c'est Francis Holm, donc c'est juste un choc quand même. Et à partir de là, je suis embarquée dans une spirale qui est toujours la même aujourd'hui. D'abord, mon patron, c'était Pierre González de Gaspar. Il était l'avocat de Pierre Chanal, celui qui était poursuivi pour les disparus de Mourmelon. Et il était l'avocat de Francis Holm, qui était un tueur en série itinérant, qu'on connaît aujourd'hui pour l'affaire de Montigny-lès-Metz, qui vient d'être jugé pour cette affaire-là, mais qui a été jugé pour une douzaine d'affaires. Le routard du crime, comme on l'appelait à l'époque. Et donc, je rentre dans ce cabinet qui défend ces deux tueurs, qui est tout à fait à l'opposé de ce que je suis, de ce que je pense. Et d'ailleurs, je dirais, dans notre histoire familiale, on lui demandait pourquoi il avait pris ces dossiers-là. On ne comprenait pas, comme beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on défende des criminels. Et puis, l'histoire de ma petite sœur, je l'ai révélée très tardivement. Qu'elle ait été enlevée alors qu'elle était sous ma surveillance et que, par chance, on l'a retrouvée rapidement. Et à l'époque, j'avais 14 ans, ma sœur avait 9 ans et demi, je crois, et 9 ans et demi, 10 ans, et en fait, on faisait des courses tout bêtement, et elle voulait s'acheter un livre, donc c'était le magasin d'à côté, elle pouvait y aller à 10 ans. Et donc je devais la rejoindre, sauf que quand je suis allée dans le magasin, elle n'y était pas, elle avait suivi quelqu'un, et par chance, on pense que c'était plutôt un agresseur de garçon, donc par chance, elle est revenue. Bon, mais j'ai peut-être aussi sorti des choses de mes parents qui ont été un exemple, parce que mon père, c'était tabou à l'époque, c'était dans les années 70. Les attouchements, tout ça, c'était presque la norme. Et d'aller déposer plainte alors que ma mère avait un commerce, donc au risque de perdre sa clientèle, d'être stigmatisée, montrée du doigt, c'était vachement courageux. Et je trouve que mes parents ont été vachement courageux sur ce point-là. Et ils m'ont montré cet exemple-là. Et il se trouve que c'est la première série que je rencontre, puisque cet homme avait... il s'avère qu'après que mes parents aient déposé plainte et qu'ils en aient parlé dans la presse, il y a eu plein de témoignages et il s'est avéré que c'était plutôt des petits garçons et les policiers étaient au courant. Cette enquête aboutira jamais, mais c'est pas pour ça que je suis dans... Peut-être c'est une destinée, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qui fait que je veux pas défendre des criminels. Parce que je sais, moi, la réaction que j'ai devant ces agresseurs-là, parce que je sais ce que j'ai ressenti dans mon adolescence par rapport à cette histoire-là.
C'est de la colère et de l'impuissance, c'est quoi?
Ah non, l'envie de tuer. Très clairement. Voilà. Donc, quand j'ai 20 ans, J'ai toujours dit quand j'ai fait mes études de droit que je pourrais pas défendre des criminels et que je voulais pas être avocate. Et donc ça, c'était une bataille avec aussi avec cet oncle. Je le fais parce que j'ai pas de travail, que j'ai pas d'argent, que je veux pas être à la charge de mes parents. Mais clairement, à l'époque, je suis pour la peine de mort pour les criminels, certains criminels. J'avais 20 ans. Hein. Mais donc c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de ce qu'on pense que je fais ça parce que, mais non, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que moi, je préfère aller dans les entreprises là où ça brille avec la mode, etc., que de m'enfermer là-dedans. Parmi tous ces dossiers intenses et ces familles, ces regards et ces demandes, il y a une association qui s'appelle l'association Christelle et qui nous contacte pour qu'on prenne en charge leur dossier. Alors c'était trois dossiers de crime, c'était Carole Soltysiak en 90, Christelle Maillery en 86 au Creusot et Christelle Blétry en 96. Donc ces trois mamans nous appellent pour nous demander si on peut prendre en charge leur dossier. Alors, je vais traîner les pieds longtemps parce que je me sens pas à la force de reprendre un combat comme ça et que je veux toujours pas rester dans les cabinets d'avocats. Ça fait déjà 6 ou 7 ans que j'y suis, mais je veux pas, quoi. Et donc je traîne un peu les pieds, je me sens pas à la force de prendre en charge ce nouveau combat. En tout cas, au départ, Non, je me sens vraiment pas la force. Et ces mamans, elles vont insister, elles sont tenaces. Et elles avaient évidemment un enjeu, c'était que leur fille avait été tuée, qu'elle faisait des rapprochements entre les trois dossiers, qu'elle voulait la vérité, et donc on va finir par les recevoir. Dans ce rendez-vous, ces mamans qui sont tellement émouvantes, il y a la maman de Christelle Maillery, une petite jeune fille de 16 ans qui rentre de l'école plus tôt parce qu'elle est dispensée de sport et qu'on retrouve deux heures après tuée de plus d'une trentaine de coups de couteau dans la cave d'un immeuble de la cité où elle habite qui était au Creusot. Et j'ai un petit peu regardé les dossiers, les documents qu'elles m'ont envoyés, et j'hésite à prendre cette affaire de ces trois mamans parce que je pense que pour Christelle Maillery, j'y arriverai pas. C'est un dossier de 86, il est ancien, probablement prescrit. Certes, on a réussi à sortir Émile Louis, mais on va pas faire des miracles chaque fois. Hein. Moi, je veux pas mentir aux personnes, je veux pas leur dire que je vais y arriver. Et il faut savoir que la maman de Christelle Maillery, c'est... J'ai une affection pour elle qui est, elle ne sait sûrement pas à quel point cette maman, elle m'a touchée. Elle s'appelle Marie, comme ma mère. Elle est d'une douceur, d'une gentillesse, comment dire non à ses mamans et comment dire non à Marie, quoi. Mais comme j'ai l'habitude de dire les choses, parce que sinon, dans les affaires criminelles, ça pardonne pas de mentir. Hein. Enfin, je veux dire, on peut pas mentir à ces familles-là. Je leur dis, moi je prends, mais sous réserve que vous compreniez que je pense que je sortirai pas ce dossier. Donc c'est quand même une grande émotion, on dira à une maman, écoutez, moi je veux bien prendre vos dossiers, je pense qu'on peut faire quelque chose pour le dossier de 90 qui est toujours ouvert, je peux faire le dossier pour 96 parce que là, ouais, mais le dossier de 86, moi, je pense que je pourrais pas. C'est vieux, oui, et puis il y a eu la prescription, probablement que c'est prescrit, parce que pour que ce soit pas prescrit, il faut un miracle. C'est qu'au bout de 10 ans à partir du crime, ou au bout de 10 ans à partir du dernier acte d'enquête, on peut plus poursuivre. Là, c'est des dossiers de 86, on est en 2001. Et donc, je dis, je prends sous réserve de ça. C'est-à-dire que vous entendiez dès aujourd'hui, Marie, que je pourrais peut-être rien faire dans ce dossier-là. Et donc, le premier travail qu'on fait, c'est bah, évidemment de demander la procédure. Donc, ça met un peu de temps. Donc on va demander la copie de la procédure. Et la préservation des scellés, puisque je le faisais déjà à l'époque, je l'apprenais déjà à tout le monde, c'est notre responsabilité en tant qu'avocat, mais elle est même juriste à l'époque, mais en tant que cabinet, de tout de suite demander la préservation des scellés, surtout sur un dossier ancien. J'appelle donc le parquet m'appelle, ou je l'appelle, je relance en disant « je n'ai toujours pas la copie de dossier, qu'est-ce que vous avez fait des scellés ?» Et là, il me dit « écoutez, on a détruit les scellés ». C'est un cas d'école, cette affaire. Il avait même pas regardé le dossier. Pour lui, ça avait été fermé en 90, on était en 2001, c'était prescrit. Sauf que, entre-temps, il y avait une émission de télé. Il y avait eu Témoin numéro 1, qui avait été fait par la famille, qui était animé par Jacques Pradel sur TF1. Et Témoin numéro 1 avait eu lieu en 93-94. Et là, il y a eu des témoignages. Et ces témoignages ont été traités par les enquêteurs. Et comme la prescription se calcule soit du moment du crime, s'il n'y a pas d'enquête, soit du dernier acte d'enquête. Le dernier acte d'enquête, c'était 94-95, suite à cette émission. Et combien de fois cette émission nous a sauvés des affaires. Et donc, en fait, on parlait d'un cas, souvent avec la présence des enquêteurs, du parquet ou d'un juge d'instruction qui trouvait plus de solution dans son dossier. Et moi, je trouve ça honorable aujourd'hui parce que c'était pour sauver des affaires criminelles. Et il y avait des témoignages. Et ces témoignages, la justice devait... L'équipe de Pradel les a toujours transmis à la justice. Et la justice devait les traiter. Donc, elle refaisait de la procédure. Et ça, le parquet n'avait pas regardé. Et pourtant, oui, c'était Marie qui m'en avait parlé. Enfin, les mamans m'en avaient parlé. Il y a eu la procédure en 94-95, du coup, ça m'avait repoussé la prescription, donc le dossier n'était pas prescrit. Et ces erreurs-là, on les a dans tous les dossiers, on les a tout le temps. On avait de l'espoir quand même, j'avais dit à Marie, ce qu'on pourra faire tout de suite, c'est la génétique, mais il n'y a plus de scellé. Et il faut que je dise ça à Marie. Et c'est le premier dossier où j'ai une réponse. Et il faut que je dise ça à Marie. Et aujourd'hui encore, je peux vous dire que ça me fait toujours aussi mal. De lui dire que peut-être les indices qu'on avait, ben, ils ont été détruits. C'est une trahison de la justice pour une famille. Il n'y a pas pire. On a détruit les affaires de sa fille. On a détruit la trace du criminel. Et on a détruit, enfin, la justice l'a abandonné. Enfin, comment je lui dis ça, moi? Cette maman, en fait, c'est un peu la maman qui veille sur les autres mamans, et les autres, elles ont beaucoup de force, elles se battent, mais quand même, elle est toujours dans la douceur, elle lève jamais le ton, elle est toujours, enfin vraiment, comment je dis ça à Marie, quoi? Comment je lui dis ça? J'ai tourné autour des téléphones longtemps. Et puis on se dit, bah là, on n'a plus rien à perdre, puisque j'ai plus d'éléments pour ouvrir le dossier, j'ai pas grand-chose, à part deux cartes postales qui étaient dans la procédure et dont on pouvait faire analyser les timbres, parce qu'à l'époque, on les collait encore. Bon, on va faire une enquête privée. On va refaire ce qu'on a fait dans Aimé-Louis, c'est-à-dire reprendre un enquêteur privé. Il n'y a pas de procédure ouverte, et essayer d'aller chercher des éléments qui me permettraient d'avoir des éléments nouveaux pour dire à la justice, pour retravailler sur ce dossier. Et là, j'avais un enquêteur privé avec qui j'avais... C'était un ex-journaliste avec qui j'avais déjà travaillé sur Aimé-Louis, à qui on confie cette mission. L'association de ses mamans veut bien financer cette mission. Et on va la définir. C'est-à-dire que quand Christelle Maillory est tuée, quelqu'un voit quelqu'un sortir de la cave où on la retrouve, en train de courir, qui aurait le look de Renaud, le chanteur Renaud. Et en lisant le dossier de Carole Soltysia, qui est le deuxième dossier, qui est une jeune fille qui est tuée en 90 aussi à coup de couteau et retrouvée dans la forêt, il se trouve qu'il y a un des suspects qui ressemble à Renaud. Et donc je me dis, ces deux dossiers qui ont 4 ans de différence, avec d'un côté on décrit un sosie de Renaud, de l'autre côté on a ce sosie de Renaud qui fait partie des suspects, il y a un truc à faire, quoi, et je vais peut-être pouvoir sauver mon dossier. Donc je saisis cet enquêteur privé, et on lui demande, un, de travailler sur ce suspect-là pour voir où il se trouvait au moment du meurtre de Christelle Maillory. Et je savais qu'il était pas loin, qu'il travaillait à 500 mètres. Donc ça avait un vrai intérêt. Et deuxièmement, d'aller voir le petit ami de Christelle Maillory. Et je sais qu'il a été traumatisé par la façon dont les enquêteurs l'ont entendu. Ça se voit dans le dossier. Il était mineur à l'époque. Il a perdu sa petite amie. Même si ces amourettes-là peuvent ne pas durer, là, pour le coup... Le fait qu'elle se soit fait assassiner et qu'on ait été soupçonnée, forcément, ça a laissé des traces. Je me dis que peut-être il a des choses à me dire. Il faut savoir qu'un dossier, on ne peut pas le traiter sans connaître la victime à fond. Autant qu'on peut, de connaître son histoire. Parce que ça nous met sur la route du tueur. Elle l'a rencontré à un moment donné. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce qui est anormal? Ça fait partie de l'enquête. Et mon enquêteur privé va avoir l'ex-petit ami de Christelle Maillory. Enfin, le petit ami de Christelle Maillory. Et celui-ci lui dit qu'il y a un homme qui lui a avoué le crime. Alors évidemment, l'excitation, elle monte là, hein. Enfin, comme élément nouveau. Cet homme lui a même proposé de l'argent pour le dédommager. Alors, ça paraît décalé. N'empêche qu'on ne fait pas ça sans raison. Et donc cet homme, il n'apparaît pas au dossier. Ça devient très intéressant, c'est un élément nouveau très important. Donc là, je sais que je vais pouvoir relancer le dossier, puisque pour ouvrir un dossier, après un non-lieu, il faut amener un élément nouveau. Ça veut dire qu'on contraint quand même les familles à amener quelque chose de nouveau pour qu'on puisse réinvestiguer. Vous rendez compte, notre système, comment il est construit? C'est-à-dire que je suis obligée d'aller devant un procureur pour lui dire « j'ai un élément nouveau que vous n'avez pas vu, il faut rouvrir ». Et c'est ça notre spécialité, c'est trouver ces éléments pour les donner à la justice, qu'elle soit obligée de réinvestiguer. Mais là, on a un nom, et on a le petit ami de Christelle qui nous dit « cet homme est venu m'avouer ses faits, il m'a avoué que c'était lui, il m'a avoué qu'il a tué Christelle, il a voulu me dédommager, et il était tout le temps avec nous ». C'est pas n'importe quoi, il était tout le temps devant l'immeuble. Il faisait partie des petits jeunes qui traînaient, qui se droguaient, qui buvaient, etc. Un peu marginal, mais il était toujours là, et on l'a jamais interrogé. Et il va falloir que je redonne ce nom à 7 reprises sur 7 requêtes pour qu'enfin on nous entende. On va aller voir le juge, on va relancer la requête et on va voir des enquêteurs qui vont le faire du bout du pied, comme c'est toujours le cas, parce qu'ils se remettent pas en cause et puis qu'ils disent ben non, enfin il est neuneux, enfin c'est pas lui, c'est pas possible. Et puis, à un moment donné, il va se passer quelque chose dans ce dossier. En fait, aux alentours de 2010, il se trouve que cette personne, ce suspect, va attaquer quelqu'un avec une arme. On verra après qu'il y a eu plusieurs cas, mais là, à ce moment-là, autour de 2010, il va réagresser une pompiste d'une station-service avec une arme. Et il y a des images, en plus, elles sont impressionnantes. Hein, le regard qu'il a, c'est pas le regard qu'on a quand on le croise. Le regard quand il agresse, ça fait peur. Hein. Et là, l'enquête vient d'être confiée à un nouvel enquêteur. Évidemment, il fait le lien se fait, après, comment ça s'est fait, peu importe. Moi, ça fait 7 ans que je donnais ce nom, et le travail va se faire très vite, puisqu'en 2011, il va être interpellé. Il avouera pas, mais les éléments qui sont réunis par l'enquête démontrent que c'est lui. Aujourd'hui, il a été condamné. Il y aura des doutes très longtemps sur sa culpabilité, parce que on aime bien avoir des choses précises, mais à l'audience, il va dire à un moment quelque chose. Et là, je sais qu'il me dit, il ne me le dit pas à moi, mais je sais qu'il dit que c'est lui. C'est compliqué à expliquer, mais il y avait un détail que seul le tueur pouvait savoir. J'ai dit tout à l'heure que l'auteur des faits, celui qui s'échappe de la cave, a été vu par un témoin. Et il percute presque cet homme. Et c'est cet homme qui décrit un suspect qui ressemble à Renaud. Et cet homme, c'est un postier. Et aujourd'hui, c'est jugé, donc on peut en parler. Il n'y a que moi qui savais, alors peut-être les enquêteurs et le juge, mais en tout cas, il n'y a que moi à l'audience qui sait un truc. Mais il y avait un détail que personne ne savait. Et la presse ne le savait pas. Personne ne le savait. C'est que ce postier, quand il est pratiquement percuté par ce suspect, n'est pas dans une tenue de postier. Parce qu'il faisait un remplacement. Il n'avait pas la tenue. Et à l'époque, les tenues postiers, elles étaient très visibles. Donc, ils sont plus vieux, on se rappelle. Bon, il n'avait pas l'uniforme. Et l'auteur des faits, celui qui est condamné, celui qui a tué Christelle, il dit à l'audience, « Mais je n'ai pas vu de postier. » Mais bien sûr que vous n'avez pas vu de postier. Parce qu'il n'avait pas la tenue du postier. Il n'y a quasiment personne qui sait que cet homme, ce postier qu'il a croisé, n'avait pas la tenue. Et il nous le dit. Et ça, pour moi, bon. Alors, quand il est interpellé, on demande tout de suite des vérifications pour les deux autres dossiers, puisque Carole Soltilla, qui est tuée en 90, a été tuée à l'aide de 3 ou 4 coups de couteau, et Christelle Blétry, qui est tuée en 96, est tuée de plus d'une centaine de coups de couteau. Donc, évidemment, on se pose la question si cet homme qui tue en 86 n'a pas ensuite, puisqu'il est laissé libre, n'a pas récidivé. Mais en réalité, non. C'est pas. Au départ, on a commencé à travailler en rapprochant ces dossiers sur les coups de couteau. Mais il se trouve que non, il se trouve que c'est pas lui, et pour l'instant sur les 3 affaires, il y en a 2 de résolues et définitivement jugées, puisque Christelle Blétry a été résolue et c'est un autre auteur qui a commis les faits. Il va y avoir plein de péripéties de ce type-là jusqu'au procès où on va pouvoir l'affronter, et là c'est une autre phase avec Marie à côté de nous, Et c'est... Voilà, c'est... c'est... Le procès, c'est une phase technique, c'est, il faut arriver à ce que cette personne réponde de ses actes, et tout le monde nous dit que ce ne sera pas le cas parce qu'il est schizophrène, parce qu'on n'a pas d'aveu, parce qu'on n'a pas d'ADN, mais on s'est jugé sans ADN et sans aveu, et on va démontrer que le cold case, c'est une audience aussi particulière, avec le souvenir de témoins qui sont devenus adultes, beaucoup de jeunes de l'époque qui sont devenus adultes. Mais l'émotion est là dans cette audience, et on a l'impression de les voir tous devant cet escalier, devant cet immeuble. C'est comme s'ils perdaient 30 ans quand ils arrivent à la barre. C'est une audience d'une force et d'une émotion rare. Il a été condamné à 30 ans moins 10 ans compte tenu de sa schizophrénie, donc à 20 ans. Moi, le visage de Christelle, il me quitte pas, il me quittera jamais. Et je l'ai plaidé, j'ai plaidé qu'elle ait monte les yeux ouverts. La dernière image qu'elle a, c'est celle de cet homme qui la tue. Et on va la retrouver les yeux mi-clos. Donc, je vais plaider ça. Je veux qu'on comprenne ce que c'est. On s'attache à ses victimes aussi. C'est-à-dire que d'abord, on travaille pour celle qui est partie, avant de travailler pour les mères, les parents et tout. Mais notre moteur, c'est aussi la relation avec les parents. Mais quand on arrive au procès, on a des photos souriantes, mais il y a celui qui n'est plus là ou celle qui n'est plus là. Et je pourrais jamais l'oublier, quoi. It dangles to say goodbye. If you want to, baby, just cry. There's nothing gonna make sense all the time, but someday it'll be alright. The lights are down and the curtains drawn. The crowd is gone and the lights are off. I don't care about fame and I might be poor, but that line's too long and life's too short. Don't rush, baby, now catch your breath. And every time you try, try your best, 'cause nothing's gonna work out every time. But well, someday it'll be alright.
C'était Cold Case, l'avocate des oubliés, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Yael Mandelbaum et mixé par Jason Taous. Merci bien sûr à Corinne, à Mélissa Foust qui est notre attachée de production et à François Bréus. Make through tomorrow, but you don't know right now, you might learn today. And it ain't easy to say goodbye. If you want to, baby, just cry, 'cause nothing's gonna make sense.